commenter votre réflexion sur le thème aimer pour les HEC. Le film de Max Ophuls qui fait partie des classiques de Cinémathèque et qui s'intitule Le plaisir, c'est un film de 1952. Alors il aurait pu être tourné en couleur. Max Ophuls a fait des films en couleur, plusieurs. Mais il a fait le choix pour ce film du noir et blanc, et pourtant il n'est pas si ancien que cela. Vous y trouverez quelques acteurs célèbres que vous connaissez par d'autres films des années 30, 40, 50 et 60. Je pense évidemment à Jean Gabin ou à Madeleine Renaud. Et quelques mots peut-être pour situer Max Ophuls, dont j'ai laissé trôner le nom dans le générique à l'écran. C'est un juif autrichien qui a quitté Vienne au début des années 30 pour arriver en France et se faire naturaliser. Et donc, il se sentait absolument français et faisait des films en français. Il n'a qu'un seul film en langue allemande. Il considère que la France est son pays d'adoption, et même s'il a dû, comme d'autres, aller faire un tour aux USA durant la Seconde Guerre mondiale, il se considère avant tout comme français. La période française, d'ailleurs, de son travail étant considérée comme la meilleure, c'est-à-dire celle de son retour aux États-Unis entre 1949 et 1960. Alors, autour du plaisir, vous avez quelques autres films célèbres qui sont les parties nécessaires de toute Cinémathèque. Je pense à La Ronde, peut-être que vous aurez vu ce film avec un conteur qui fait défiler les histoires. Madame 2, avec Daniel Darieux, ou encore Lola Montes. Si vous ajoutez le plaisir, ça fait au moins 4 chefs-d'œuvre qui rentrent dans toutes les cinémathèques. Alors, parlons plus précisément du film de 52, Le plaisir, qui se présente comme l'adaptation libre de 3 nouvelles de Maupassant. Donc ce film est un peu particulier parce que vous allez avoir 3 histoires. On parle parfois de films à sketch. 3 nouvelles qui ne sont pas liées chez Maupassant. Donc c'est un choix parmi les dizaines et dizaines de nouvelles qu'on trouve chez Maupassant. Et vous allez en découvrir 3 ici. Alors, comment est-ce que Maupassant inspire Ophuls ? Eh bien, ce qui plaît beaucoup à Ophuls chez Maupassant, si je puis dire, c'est d'abord son pessimisme sentimental. Les histoires d'amour chez Maupassant finissent mal, ont des milieux souvent difficiles et rarement des débuts faciles. Bon, donc l'amour chez Maupassant, peut-être en traitez-vous dans vos cours de littérature et philosophie. La littérature de Maupassant, de ce point de vue-là, n'est pas la plus joyeuse. Ensuite, ce qui inspire Ophuls chez Maupassant, c'est une efficacité de style qui, évidemment, est le propre de la nouvelle. Et on va retrouver ça chez Ophuls. Ce sont des formes narratives très concentrées qui vont à l'essentiel. Vous allez voir, il n'y a pas de temps mort, ce qui n'empêche pas une vraie profondeur de réflexion. Donc, le format même des nouvelles qu'il adapte est quelque chose qu'il aime. Et puis, dernière chose qui inspire Maupassant, et ce sera la thèse principale que je développerai ici pour le thème de l'amour, c'est qu'il y a d'un côté un pessimisme des formes, sur les formes de plaisir et d'amour, c'est-à-dire tout cela est voué à l'échec, est fugace, est conduit à des déceptions, mais de l'autre, petite lumière au bout du tunnel, il y a une forme de plaisir qui rattrape tout cela et qui rattrape les défauts de l'amour. C'est le plaisir artistique. Alors les Cagneux pourront y voir une résonance avec les thèmes que nous développons par ailleurs. Il lit ça chez Maupassant, et vous pouvez en effet considérer chez Maupassant que même l'histoire d'amour la plus triste est encore une histoire joliment racontée. Donc en cela, la nouvelle peut-être rattrape ce que l'histoire a de triste. Mais on va retrouver ça exactement à l'identique, enfin du point de vue cinématographique, si on peut parler d'identité, chez Ophuls. Alors en revanche, il y a des choses qui séparent totalement Ophuls de Maupassant. Maupassant est connu pour une forme de misogynie assez marquée, pas du tout chez Ophuls. Il a même été plébiscité par les courants féministes des années 60-70, parce que justement il refuse la spectacularisation du corps féminin. Et ensuite, il a fait, pour ce film en particulier, il a fait une adaptation très libre de 3 nouvelles qui n'étaient pas dans le même recueil. Et surtout, il les coordonne par un compteur que vous allez retrouver tout au long du film pour le voir à la fin, et qui n'apparaît jamais chez Maupassant. Personne ne lit, ne relit, je veux dire, hein, du verbe relier, les nouvelles chez Maupassant. Donc ça, c'est un choix totalement ophulsien. Alors, ce qui m'intéresse, venons-en un peu plus précisément à un autre thème, c'est qu'on va avoir dans ces films trois histoires qui traitent de la relation amoureuse dans ces différentes phases, relativement classiques quand on a une version plutôt pessimiste de la relation amoureuse, c'est-à-dire plutôt la curiosité, la passion et l'idylle du début, l'épreuve du temps et, en tout cas dans ces films et chez Maupassant aussi c'est très clair, le dégoût final, voire la haine. Or, alors désolé d'annoncer la couleur, mais vous étiez au courant que ça pouvait mal se terminer. Or, il n'y a pas de pessimisme de fond chez Ophuls pour la raison que j'annonçais déjà un petit peu tout à l'heure. Voilà la contradiction qui traverse son œuvre. D'un côté, tout amour est éphémère, toute passion est désorientante, et ceci s'incarne dans une triade du désir, du plaisir et du dégoût. Donc tout cela est très classiquement pessimiste, en tout cas pour ce qui est de l'amour. Mais à cela, on peut opposer deux choses. Je précise la thèse que j'évoquais déjà tout à l'heure. D'abord, le film se veut beau et plaisant. C'est-à-dire qu'Ophuls est un des derniers peut-être à mettre autant de soin dans la disposition de ses décors, de ses figures, de ses musiques, bref, à composer une symphonie visuelle, même si celle-ci sera en noir et blanc, elle peut évidemment être harmonieuse ainsi, alors que par ailleurs tout est censé être décevant dans les relations dont on peut attendre le plus. Donc voilà la première contradiction, et c'est un peu comme si je vous disais que quelqu'un est toujours déçu par la sensibilité, mais que c'est un esthète. Donc ça veut dire qu'il y aurait finalement deux régimes de la sensibilité qui sont ici en concurrence. D'un côté, celui de la passion amoureuse, qui donne lieu à des déceptions. De l'autre, l'esthétisme en art, qui en serait une forme de dépassement. Et puis, deuxièmement, alors c'est là où on revient plus nettement à une lumière amoureuse, eh bien, il y a quand même, dans chacune de ces trois histoires, si vous y êtes attentif, il y a quand même des moments où l'amour est authentique et sincère, comme si par-delà l'instabilité des plaisirs éphémères, il y avait aussi des moments de vérité au sein du sentiment amoureux. Et donc ça constitue une deuxième contradiction. C'est-à-dire sur ce pessimisme de fond se détachent deux lueurs qui permettent de poser la question suivante, et c'est celle-ci que je voudrais utiliser pour vous introduire à ces films. En quoi le plaisir esthétique constitue une rédemption pour l'amour? Voilà comment se présente ce film, c'est-à-dire l'œuvre d'art serait une manière de dépasser ce que la vie amoureuse avait promis, mais sans tenir ses promesses. Alors, pour vous y introduire, je voudrais d'abord développer une thématique. Ce que je vais faire, je ne sais pas comment les autres procèdent, mais ce sera ma façon. Je vous laisserai tout à l'heure voir le film par vous-même, je n'en reviendrai pas à la fin. Mais je vais vous le présenter d'abord par cette introduction et par des thématiques en vous présentant quelques extraits que je vais commenter. Il y en aura trois, ils seront courts, de façon à ce qu'ensuite vous puissiez avoir une lecture un peu plus active du film. Mais vous verrez le film en intégralité et vous pourrez partir juste après, autour de 22h. Alors, la première thématique à laquelle je vous demande d'être sensible, c'est justement cette fragilité du sentiment amoureux. On a trois histoires, dont la première, qui s'intitule Le Masque, s'organise autour d'un spectacle de French Cancan, donc la séduction érotique, amoureuse ou nostalgique est un peu partout, vous allez comprendre pourquoi, avec son lot de voilerie, de prostituées, d'illusions. Et en même temps, la première histoire donne le ton à l'ensemble du film, puisqu'on assiste à la quête frénétique d'un vieillard qui veut absolument retrouver ses plaisirs de jeunesse et qui le conduit jusqu'à la laideur et même au ridicule. Dans la deuxième histoire, il s'agit de la maison Tellier de Maupassant qui se trouve adaptée, eh bien, c'est encore un plaisir amoureux trouble, puisqu'en fait, on assiste à la vie d'une troupe de prostituées qui part en province pour assister à la communion d'une nièce, ce qui est un spectacle assez curieux, hein, toute cette charté de femmes, comme dit le conteur, qui se retrouve au milieu de la campagne normande à égayer une église où d'habitude rien ne se passe. Et puis enfin, après le plaisir ridicule et le plaisir trouble, vient le plaisir impossible, c'est-à-dire la dernière histoire autour de la folle passion d'un peintre pour son modèle. Et tout cela, finalement, crée toujours un sentiment de dissonance. C'est-à-dire, d'un côté, les promesses de la passion amoureuse, la possibilité d'atteindre une forme d'absolu, non pas de quiétude, mais d'absolu, et de l'autre, la réalité, avec son lot de déceptions, et souvent, justement, la tentative d'ascension est suivie d'une chute. Alors c'est ce que je voudrais vous faire sentir dans ce tout premier extrait. Donc, je vais vous montrer, on va commencer avec le générique, je l'ai un tout petit peu coupé, mais la suite va être éloquente. Vous allez voir un des mouvements de caméra les plus fameux du cinéma, il est assez rare qu'on en ait de si virtuose. Or, cette ascension vers un plaisir, je ne vous dévoile pas toute la fin, va se terminer par une chute monumentale.
Cherchez, sans m'éclairer. milieu de cette foule, apparut un homme maigre et dur d'homme. Il avait l'air d'une figure de cire du musée Grévin, d'une étrange et fantasque caricature du charmant jeune homme des gardes romains.
Faut le suivre, ce personnage, hein, et faut suivre la présentation de ce French Cancan. Est-ce qu'il faut que je rallume les lumières pour vos notes ou est-ce que ça peut aller? C'est bon? Voilà. Donc restons dans cette ambiance de film. Alors, il faut le suivre, mais c'est tout l'ensemble de ce film qui se trouve concentré dans cette première scène. Donc on a un des travelling les plus longs et les plus compliqués de l'histoire du cinéma. Et en même temps, Max Ophuls assumait totalement cette idée que les personnages sont en permanence pris dans un va-et-vient, et plus précisément dans un mouvement d'ascension et de descente ou de chute, qui fait pour lui l'essence de la vie, ou bien en l'occurrence la description qu'il nous donne du plaisir. Et il résumait les choses ainsi à l'un de ses journalistes: un zigzag inattendu du travelling peut exprimer un drame plus violemment qu'un long dialogue. Donc, de ce point de vue-là, Ophuls, c'est un vrai cinéaste, c'est-à-dire il assume totalement ce que les formes cinématographiques peuvent lui apporter, et ses mouvements sont beaux, et ses mouvements ont quelque chose de spectaculaire, mais ne font que d'autant plus ressentir les déceptions de la vie elle-même. Et vous allez le comprendre, ce personnage qui tombe ici de fatigue, de douleur, en fait, derrière son masque, cache quelque chose qui va le rendre absolument ridicule. Alors, ce qui se passe ici, dans ce mouvement d'ascension puis de chute quasi immédiate, eh bien, c'est l'illustration du plaisir en général chez Ophuls, et en particulier dans ce film-là, du plaisir amoureux, c'est-à-dire que quand il arrive, eh bien, tout aussitôt, il se trouve contredit. On va retrouver ça dans absolument tous les passages du film. Il va y avoir de vrais moments lyriques, de vrais moments entrés. On m'avait prévenu de votre retard en raison d'un cours décalé. On va retrouver ces moments, je vous disais, de joie fugace, ou de joie même sincère, pas seulement par un plaisir d'essence. Mais aussitôt, eh bien, tout cela va s'enfuir. Et c'est ce qui fait à la fois le bonheur parce qu'il est réel mais rapide, mais aussi le tragique de la vie. Alors je voudrais tout aussitôt vous montrer un deuxième extrait, cette fois pris à la deuxième nouvelle, donc où se trouve illustrée la nouvelle La Maison Tellier. On change d'ambiance, et vous allez voir que c'est le même problème, la même contradiction.
Exprès de leader, emportez madame et ses cons.
Alors, il faut connaître.
Et à la gare suivante, sauvèrent Joseph Rivet, qui les attendait avec une grande charrette pleine de chaises et attelée d'un cheval blanc.
Vous avez ce paysan, mais lourd et maladroit, qui explique que son chargement habituel, ce sont des cochons. Il est là avec sa blaude et son air de brave paysan encore mal dégrossi. Donc il est caricaturé, hein, volontairement ici. Et pourtant, à un moment, la charrette démarre, accompagnée de la musique, dans un mouvement qui va être fluide du début à la fin de la séquence. C'est court, mais c'est fluide. Et le texte de Maupassant arrive à ce moment-là et ça forme quelque chose de parfaitement continu, de parfaitement harmonieux, jusqu'à parler de cette charretée de femmes comme d'un bouquet de fleurs. Et c'est tout le style d'Ophuls que vous avez en une ou deux minutes ici, à savoir que c'est toujours au milieu des dissonances, des contre-harmonies et des déceptions qu'un éclat de beauté et d'amour sincère, on va le voir juste après dans l'idylle entre le paysan et Madame Rosa, eh bien, peut arriver. Donc c'est à la fois très très pessimiste, puisque on a l'impression que rien ne s'emboîte jamais, que tout est mal organisé, comme le dit lui-même ce paysan, et en même temps, il y a quelque chose qui peut arriver, et qui fait que le soleil apparaît. Alors, la première conclusion qu'on peut tirer de cette thématique-là, c'est une conclusion finalement très pessimiste qui va être prononcée par le conteur à la fin de la troisième histoire. Il va dire « le bonheur n'est pas gai ». Voilà, bon, bah, au moins c'est clair. C'est-à-dire que même quand on y parvient, même quand on organise quelque chose de relativement serein, eh bien, il faut se contenter de formes qui sont approximatives. Le bonheur n'est pas gai, notamment parce que chacun des personnages principaux ou de ces multiples personnages de ces trois nouvelles adaptées, eh bien, tous sont en quête d'une passion amoureuse. Alors, soit ils la cherchent activement et la trouvent, c'est le cas de notre masque au début, ou en tout cas essaient de la retrouver, au sens pour être plus précis. Soit ils tombent dessus, comme ce paysan qui va au moins imaginer avoir une histoire qui le sort un peu de son ordinaire. Soit ce sont des gens comme les artistes de la dernière nouvelle qui vont provoquer ce genre de situation et, à la fois en la cherchant mais aussi en la trouvant, vivre une véritable passion amoureuse. Il n'en reste pas moins que le motif de la chute que j'évoquais dès le premier extrait se retrouvera jusqu'à la fin du film, puisque cela se terminera, je ne vous dis pas toute la fin du film, rassurez-vous, puisque ça se terminera par la tentative de suicide de cette femme qui vit par ailleurs une vraie passion amoureuse. Et là, pour une chute, vous verrez que c'est une sacrée chute. Et pour autant, après cette chute, il y aura quelque chose, alors vous découvrirez par vous-même, mais qui fait que cette chute sera aussi le début d'autre chose. On comprend donc que si le bonheur n'est ni dans le plaisir, ni dans l'amour, ni donc dans le plaisir amoureux, eh bien, il est ailleurs, il est dans ces quelques moments de grâce qui sont soit des cadeaux inespérés de la vie, mais qui sont fugaces, soit dans ce que l'artiste arrive à tirer de ce chaos et de ce mélange qui fait que nos attentes et nos désirs se trouvent souvent frustrés. Le bonheur n'est donc pas dans l'amour, nous dit le réalisateur, nous fait comprendre le réalisateur. Et si le bonheur n'est pas gai, c'est parce qu'on a trop tendance, peut-être à la suite d'une période romantique ou pour avoir voulu remplacer les dieux, on a trop tendance à espérer à partir de promesses qui ne sont que des suggestions, alors que la vie ne nous donne lieu, en amour du moins, qu'à des déceptions, ou bien à des passions troublantes, fugaces et qui ne sont que des tourbillons. Alors soyons plus précis, s'il y a dans la passion amoureuse un tourbillon, un mouvement dont il faut se méfier, et le film en est l'illustration permanente, ou pour le dire encore autrement, si la vie comporte un mouvement qui peut tout défaire, le film, lui, comporte un autre type de mouvement, et lui, il continue. Lui, il est satisfaisant, lui, il est plein de beauté, un peu comme le mouvement de cette charté de femme, pour reprendre cette expression. Et il faut au personnage en général longtemps avant de le comprendre. Vous verrez dans la dernière nouvelle, le peintre ne comprend qu'à la toute fin qu'il a attendu de la vie ce qu'elle ne pouvait lui offrir. Il a compris que le bonheur était dans la peinture, parce que le mouvement de la vie lui-même n'est au mieux qu'un enivrement. Seul l'art offre un mouvement, une dynamique vraiment durable et gracieuse. Alors, est-ce à dire pour autant que tout art permet cette rédemption? Alors justement, non, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Ophuls se méfie beaucoup d'une forme d'art spectaculaire, trop facile. Il va même en faire un film qui s'appelle Lola Montes, c'est sur l'histoire d'une acrobate qui justement est victime d'une société du spectacle. De sorte que, à la fois, l'art est une rédemption, mais pas n'importe quel art. Ce qui faisait dire à Ophuls, là aussi, je le cite à partir d'un article, il disait « il faut tuer la publicité ». Et il écrit ça au début des années 60. Nous appellerions ça, a posteriori, de la réclame. Et pour lui, c'était déjà une forme de fausse esthétique, manière de capter l'attention en caricaturant des formes, et non pas de travailler une véritable harmonie sur la durée et avec patience. Pour Ophuls, le véritable spectacle est d'abord un art qui n'est pas complaisant, c'est-à-dire qui montre autant les dangers de la séduction que les moments de grâce, donc ce film en sera la preuve, mais également qui ne caricature pas ses sujets. Alors c'est là où il a beaucoup plu, vous disais-je tout à l'heure, aux féministes naissantes de cette époque-là, c'est que Lola Montes, mais déjà dans ce film-là, lutte contre l'image de la femme objet. Alors vous me direz, entre les prostituées ici ou la femme qui sera le modèle du peintre dans la troisième nouvelle, on pourrait se dire finalement la femme est souvent réduite à un objet, mais justement, ça ne marche pas. Et de tous les côtés, il n'y a que des déceptions. Donc cette figure-là, il lutte absolument, et plus généralement, il estime qu'il y a une forme d'art du spectacle qui ne rend pas justice ni aux histoires, ni aux personnages, ni à la vérité de façon plus générale. De sorte que si un film doit plaire, et c'est une manière de résoudre peut-être ou de répondre en partie au paradoxe que j'avais soulevé au départ, eh bien si le film doit plaire, c'est non seulement en dévoilant des moments authentiques dans les relations entre personnages, et ce serait là comme des clignotements d'amour véritable dans des brumes assez troublantes, mais aussi en leur donnant leur chance par l'esthétique du film lui-même. C'est ainsi que, d'un côté, on a des femmes blessées, caricaturées, que seraient les prostituées dans leur décor naturel. Vous verrez que on assiste à leur vie normale, enfin, avec la pudeur des films de l'époque, évidemment, mais on voit concrètement le fonctionnement de la maison Tellier, c'est-à-dire la maison close tenue par la dame que vous avez vue à l'écran. Et en revanche, en les sortant de ce décor, en les installant dans une campagne à laquelle elles ne sont pas habituées et qui les émerveille, eh bien, elles retrouvent comme quelque chose de leur espoir, de leur projet qu'elles avaient pu perdre de vue. Et ceci, encore une fois, n'est possible que dans le mouvement. Alors ce mouvement, certes, c'est la grâce, mais ce mouvement, c'est aussi, là encore, le caractère éphémère des choses. C'est-à-dire que ce passage que je viens de vous montrer, ce moment où s'envole cette charretée de femme, comparée à un bouquet de fleurs, eh bien, ça ne peut pas durer. Et il y aura, vous le verrez, un autre mouvement de grâce pure dans l'église, au moment de la communion de la nièce ou filleule, je ne sais plus. Il y aura un dernier moment de grâce juste avant de prendre le train après le repas de communion. Et puis c'est tout. Voilà. Ça veut dire que sur 3 ou 4 jours sur lesquels s'étale cette nouvelle, puisqu'elle retourne à Paris, je crois que c'est à Paris, oui. En tout cas, à la maison close, non, excusez-moi, c'est une ville côtière, donc c'est pas Paris, je ne sais plus. Mais en tout cas, le retour à la maison close va se passer dans la foulée, donc ça s'étale sur 2 jours et demi, 3 jours à peu près, eh bien, ça va disparaître. C'était voué à cela. De la même manière, ce qui se passe dans la nouvelle du peintre, c'est qu'il y a un moment d'idylle qui est vraiment précieux, qui est là et sur lequel personne ne crache, qui est suivi d'une longue période de dégoût et d'insatisfaction. Mais il y a à la toute fin aussi une autre forme de grâce, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est quand le peintre renoue avec son art pour y trouver une forme de rédemption. Et ce qu'on peut dire, c'est que la continuité globale qui fait que, entre guillemets, sur un fond très pessimiste, très désabusé, ce qui fait que tout cela reste intéressant et motivant, eh bien, c'est que le film globalement continue, c'est-à-dire que les 3 nouvelles s'enchaînent et s'enchaînent avec la possibilité chaque fois de retrouver ces joies éphémères. Par conséquent, et je conclurai là-dessus, même si l'amour est présenté sous un jour plutôt défavorable, et si la passion, en tout cas dans ces films, est dévalorisée, eh bien c'est aussi l'occasion de comprendre que la grâce peut arriver dans la représentation de l'amour lui-même, à défaut d'être dans cet amour seulement. Voilà, je vais vous laisser maintenant voir le film.